transversale sur la première.
Il a donc bientôt 10 ans et il ne fait toujours pas l'unanimité, loin s'en faut. Le décret inscription est né en communauté française en 2007. Il organise depuis lors les inscriptions en première année du secondaire. Ce décret a pas mal évolué depuis lors. On a d'abord mis fin au fil devant les écoles de la fédération. Ensuite, on a abandonné l'arbitraire du tirage au sort. Aujourd'hui, l'inscription se fait via un formulaire unique et les places sont attribuées selon des critères précis. Mais il est encore appelé à évoluer. Alors, où en est-on à cette fin d'année scolaire? L'actuel décret a-t-il tenu ses promesses en termes de transparence et de mixité sociale? C'est ce qu'ont cherché à savoir Jean-Marc Vierzet et Geoffroy Fabré.
T'as déjà choisi les personnages ou pas encore?
Pas encore les personnages.
Dis-moi.
Ici?
Oui.
Il y a le 41.
Oui.
37.
Manoé est actuellement en 6e primaire dans une école de Gansoren, dans le nord-ouest de Bruxelles. Sa maman le présente comme une victime du décret. Suite à de longs calculs de distance entre son domicile, son école primaire et l'école secondaire où il voudrait s'inscrire, Manoé a obtenu un indice qui ne lui donne aucune chance de poursuivre ses secondaires dans son école actuelle.
Je stresse un peu par rapport à ne plus voir mes amis et tout, vu que l'année prochaine, je serai tout seul, sans personne. Et par rapport au transport en commun aussi, j'ai peur que, à cause des annonces et tout. Donc j'espère que ça ne sera pas trop loin. Et comme mon frère et moi serons dans des écoles différentes, on ne saura pas me conduire. C'est pour ça qu'on devra prendre les transports en commun.
Oui, j'ai le 40. Je peux retourner, c'est bon?
Oui.
Ok.
C'est pas là, c'est ici.
Oui, mais alors attends, il faut juste mettre les deux premiers chouchous, parce que sinon ça va pas aller.
Alors,
ensuite? Alors Manoé, en fait, est au Sacré-Cœur du collège de Sgansoren. Et en fait, en connaissant vraiment bien le décret et la perversité de l'indice composite, on pouvait calculer dans tous les sens. Manoé n'avait aucune chance d'avoir une école dans le nord-ouest de Bruxelles. Donc nous habitons à 736 mètres de Maria Assumpta. Et le fait que le collège est à plus de 4 km de Maria Assumpta, ça nous dessert également. Manoé habite une semaine sur deux à Berkem-Sainte-Agathe. Et le fait d'habiter à Berkem-Sainte-Agathe, il ne peut pas bénéficier de l'indice de 1,51 parce qu'en fait, il n'est pas scolarisé dans une des écoles de Berkem-Sainte-Agathe. En fait, on a notre place à Saint-Julien-Parnasse, qui est à plus d'une heure de transport en commun pour Manoé l'année prochaine. Peu importe les deux adresses, c'est une heure de chez le papa, une heure de chez moi. Ce qui veut dire qu'il devra partir plus ou moins à 7h10 de la maison pour être à l'école.
Avec tous ces calculs, le décret qui régule les inscriptions est devenu très difficile à comprendre dès qu'il s'agit d'attribuer les places dans des écoles complètes. Selon la première mouture du décret, pourtant, c'était simple. Premier arrivé, premier servi. Mais ce système a rapidement montré ses limites.
Et sur la première, c'est Africa Gordiou qui vous informe. Bonjour.
Bonjour à tous. Les files s'allongent devant certaines écoles secondaires à Bruxelles et en Wallonie. Des parents font la queue depuis hier alors que les inscriptions ne s'ouvrent que demain.
C'est pas juste du tout, parce que clairement, il faut avoir les moyens de prendre congé pour être là deux jours à l'avance. À part être ridicule, ce n'est rien du tout, et surtout pas juste et égalitaire.
Je discutais avec quelqu'un qui était dans la file, qui me disait qu'il a un ami qui est indépendant, qui ne pouvait absolument pas se libérer ni s'organiser autrement, et donc il a décidé de payer un étudiant pour faire la file à sa place.
C'est véritablement à partir du mois de novembre 2007 que le grand public découvre les problèmes d'inscription en première secondaire, avec des files de parents devant certaines écoles, principalement à Bruxelles.
C'était scandaleux, mais Arena ne nous laisse pas les choix. Les échos étaient que les gens s'installaient déjà aujourd'hui sur les trottoirs des différentes écoles.
Je trouve que c'est quand même un peu la folie d'avoir dû faire tout ça. Je suis depuis mercredi 17h30 devant l'école, donc 36 heures pour inscrire son enfant.
Ça nous a mis 48 heures, là. On est un peu fatigués, mais ça y est. Donc c'est fait, quoi. Merci Arena, j'aurais voulu qu'elle passe la nuit avec moi, mais bon, elle n'a pas voulu.
Maria Reyna, alors ministre de l'enseignement en communauté française, avait mis en application son décret inscription, un décret qui visait avant tout à rétablir l'accès pour tous à toutes les écoles.
Le véritable objectif à la base, c'était de rétablir la transparence des inscriptions. On ne peut pas vivre dans une société du privilège. Et cette transparence dans les inscriptions devait pouvoir aboutir à plus de mixité dans les écoles. Donc, mais le premier but, c'est de dire, nous avons des écoles payées par les contributions, que tout le monde paye, a fortiori, que tout le monde doit payer. Et donc, à partir du moment où tout le monde les paye, eh bien, il faut que tout parent qui a le souhait d'inscrire son enfant dans cette école puisse le faire de manière transparente et qu'on n'éjecte pas automatiquement les pauvres pour garder forcément les riches.
Malgré de longues heures de préparation, les files devant les écoles signeront l'arrêt de mort de ce premier décret. Il sera remplacé l'année suivante par le décret mixité du socialiste Christian Dupont. Un décret, lui aussi, voué à l'échec, notamment à cause des inscriptions multiples qui bloquent des places. Des enfants se retrouvent alors sans école.
Elle a 6 inscriptions en liste d'attente, aucune place en ordre d'utile, donc toujours aucune place pour la rentrée de septembre. Il y a des écoliers des places, mais pas où je veux mettre ma fille.
Elle est inscrite dans 5 écoles avec aucune inscription qui aboutit. Sa meilleure place est 47e. Très peu d'espoir par rapport au dégonflement qui pourrait encore avoir lieu avec les recoupements des multi-inscriptions.
Ces inscriptions multiples auront-elles aussi raison du décret Dupont ? Entre-temps, la CDH Marie-Dominique Simonet reprend l'enseignement avec pour mission principale de ne pas recréer les files devant les écoles et d'éviter les inscriptions multiples.
En fait, les files, elles n'existaient pas avant parce que les gens venaient 6 mois avant, 3 mois avant, 1 an avant, 9 mois avant, et ils venaient au jour le jour et on leur disait non. Et donc, comme ils étaient tout seuls, ils n'avaient pas cet effet de masse. Tandis que maintenant, mais c'est aussi la rançon de la transparence et de l'égalité pour tous. Maintenant, on voit mieux qu'il y a des écoles où il y a plus de demandes que de places. Mais ça a toujours existé. Et donc, il va falloir absolument mettre tout le monde autour de la table. Donc, ce qui est important, c'est que vraiment, il y a un consensus partagé par tous les acteurs.
Après de longues heures de consultation, Marie-Dominique Simonet aboutit au décret actuel. Il propose un formulaire unique d'inscription et des critères principalement géographiques et socio-économiques. Mais ce décret reste mauvais pour l'EMR qui a toujours été opposé aux décrets successifs. Des décrets trop marqués politiquement. C'est en tout cas l'avis de la parlementaire MR Françoise Berthiaud.
Je pense que malheureusement, ces décrets, ce sont des cumuls d'idéologies. Le PS, typique, il faut réguler, toujours cette régulation dirigiste, etc., mettre les gens là. Bon, ça a présidé à tous les décrets. Puis vous avez le CDH qui s'en est mêlé en voulant sauver un certain nombre d'institutions, notamment du réseau libre catholique, les grands collèges, alors avec l'invention de l'adossement. Et puis là-dessus sont venus se pointer en cours de route les écolos qui ont voulu jouer avec les distances, la proximité, etc. Et ça a fait un système absolument délirant.
Mais la question de la régulation des inscriptions dépasse largement le cadre politique. Dès la sortie du premier décret, 4 mamans ont décidé de créer la SBL Élève pour lutter contre ce décret. Anne-François est l'une de ces mamans qui lutte encore aujourd'hui contre le décret.
C'est tout à fait une ASBL qui est née du décret. Effectivement, à quelques mamans à l'époque, nous avions anticipé que légiférer sur ce sujet qui est la liberté et la responsabilité de choix d'une école par les parents allait impacter l'ensemble du système éducatif. Seuls les parents connaissent bien les besoins de leurs enfants. Or, Dieu merci, dans notre pays, les écoles ne sont pas des copier-coller. Elles ont leur histoire, elles ont leur tradition et elles ont leur spécificité. Quand on oppose les écoles élitistes qui écrèment, c'est des écoles élitistes qui répondent à leurs projets. Et je pense qu'il faut admettre ces projets-là. Il faut les admettre. Nous pensons à la SBL, vraiment que c'est la diversité des écoles qui est importante.
Écoutez, je vais peut-être être un peu méchant, mais selon moi, dans 8 cas sur 10, ces projets pédagogiques, c'est du vent.
Nico Hirt est un ancien prof de maths et de physique. Il est l'auteur de plusieurs livres et d'articles sur l'enseignement et est aussi membre fondateur de l'APED, l'appel pour une école démocratique.
Les prétendus projets pédagogiques sont en réalité très souvent des projets de sélection d'enfants d'une certaine classe sociale. Maintenant, attention, j'ai dit 8 fois sur 10. Il y a aussi de vrais projets pédagogiques, ça existe. Il y a par exemple des écoles qui pratiquent une pédagogie réellement innovante, pédagogie Freinet, pédagogie Montessori ou autre. Et je ne vois pas pourquoi ces écoles-là devraient être réservées à ceux qui par hasard ou par fortune ou par instruction, ont la chance de connaître ces projets pédagogiques et donc de sélectionner ces écoles-là pour leur enfant. Je ne vois pas pourquoi d'autres enfants, dont les parents n'ont peut-être pas pensé au départ qu'ils mettraient leurs enfants dans une école Freinet, par exemple, n'auraient pas la chance de découvrir aussi ce type de projet.
Bonjour, nous avons rendez-vous avec Chantal Massard.
Oui, son bureau c'est tout droit et à droite.
Un fort jeune Laeken milite depuis longtemps pour l'accès pour tous à toutes les écoles. L'association dénonce régulièrement les directions d'école qui tentent de contourner le décret en décourageant des élèves de s'inscrire chez elles.
Oui.
Bonjour.
Chantal Massard, enchantée, soyez le bienvenu.
En février dernier, l'association a filmé en caméra cachée le discours du préfet d'un collège réputé du nord de Bruxelles.
Mais un enfant qui a 52, 54, 55% à son CEP, le certificat d'études de base, en fin de 6e primaire, nous ne savons pas l'amener en 6e année. Il n'y arrivera pas.
Ici, clairement, ce qui est dit, c'est si votre enfant a 55% au CEB, eh bien voilà, il n'y a pas de solution, il n'ira pas en sixième. C'est ça qui est dit. C'est exactement l'inverse du rôle de l'école. Mais c'est terrible, hein, parce que ce discours, on le tient rarement de manière aussi ouverte, aussi cache. Il reste que un certain nombre de directions d'école, eh bien c'est ce qu'elles pensent.
Nous avons retrouvé le préfet en question. Il s'agit de Jean-Marc Zocastello, le préfet du collège du Sacré-Cœur de Gansoren. Il dément toute volonté de sa part d'influencer les parents.
Ça a été très mal interprété et j'aurais pu être plus complet en fait. J'aurais été directeur dans un autre type d'enseignement. J'aurais dit exactement la même chose parce que le but c'est bien de travailler. Si on veut réussir, il faut travailler, c'est tout.
Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de dégoûter des gens de venir dans votre école parce que vous avez déjà assez de monde ?
Il n'y a aucune volonté de ma part d'influencer quoi que ce soit. C'est de présenter des faits et puis après d'inviter tout le monde, les jeunes et les parents, à rencontrer les professeurs et leur poser des questions. Et puis les parents font leur choix. Si le discours a semblé un peu dur, c'est parce qu'il n'était pas complet par rapport à la présentation, où je devais nuancer des propos.
Est-ce que cette caméra cachée vous a fait du tort à vous, personnellement, au niveau du cabinet ? Est-ce qu'on vous a rappelé à l'ordre ?
Alors, personnellement, ça ne m'a pas fait du tort, mais on m'a quand même dit que je devais nuancer mes propos, aussi bien au niveau des instances du CEGEC, Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique, qu'au niveau du cabinet ministériel. Maintenant, si un fort jeune était venu en me disant « on va vous filmer ben, », je les aurais autorisés, vous savez.
Des arguments qui ne semblent pas vraiment convaincre un fort jeune.
En tout cas, il doit donner le sentiment à certains parents qu'ils sont bien dans l'école qu'ils ont choisie. Puisque eux, leur enfant, il a 80 ou 90%. Sa place est pleinement dans cet établissement et il y a toujours, traîne dans les esprits, le fait que « ah oui, mais voilà, comme ça on évite le nivellement vers le bas ».
La mixité dans les écoles fait peur car elle pourrait engendrer un nivellement par le bas. L'argument est régulièrement avancé par les opposants au décret. La maman que nous avons rencontrée en début de reportage avance elle aussi l'argument à mi-mot.
Il y a des enfants qui arrivent à l'école qui ne parlent même pas la langue, c'est-à-dire le français ou le néerlandais. Comment voulez-vous que ces enfants puissent déjà suivre et comprendre l'énoncé d'un problème de mathématiques s'ils ne comprennent pas le français ? Pour moi, c'est déjà aussi un problème qui doit être travaillé. J'ai des amis qui sont dans des écoles ICEF, des écoles à discrimination, et qui se battent par rapport à ça. Et quand on les met pour choix stratégique, qui arrivent dans des écoles élites, parce que justement, elles avaient le meilleur score là, ces enfants souffrent aussi, parce qu'ils vont décrocher, ils ne vont pas pouvoir suivre. Et donc, un enfant qui est trop stimulé et qui ne sait pas suivre, perd aussi confiance en lui. Et un enfant qui a les capacités et qui n'est pas stimulé, perd aussi confiance en lui.
Avec le décret, en effet, certains élèves de milieux plus défavorisés ont accès à des écoles élitistes. Mais certains de ces élèves sont contraints de quitter ces écoles après une ou deux années. Benjamin Moyens est secrétaire de rédaction à Brussels Studies. Il observe de près l'enseignement à Bruxelles et c'est pour lui un des points faibles du décret.
Il ne faut pas perdre de vue que c'est un décret qui ne s'applique qu'à un moment précis de la scolarité. Et donc, certes, ça régule les entrées en première secondaire. Puis se pose la question de « après ». Je veux dire, normalement, on n'est pas censé changer d'école pendant un cycle de 2 ans du côté francophone, mais quid en début de 3e année. Et donc, si ça a changé des choses, ça a probablement changé les choses de manière un petit peu plus importante dans les 2 premières années du secondaire, mais ça n'a pas d'implication directe sur la suite du parcours scolaire. Or, un des moments importants, c'est cette fameuse 3e année où l'ouverture des choix des filières s'ouvre et où on voit des processus de réorientation importants qui ne sont pas forcément des réorientations choisies. Certains parlent explicitement de relégation.
Didier Pienne, c'est justement le directeur d'une école en discrimination à Saint-Gilles, le collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Il a aussi observé que des élèves plus défavorisés ne parvenaient pas à suivre dans des écoles élitistes. Mais pour lui, ce n'est pas spécialement à cause de leur niveau.
Ces élèves, bien souvent, reviennent après 2 ans dans mon établissement, avec d'énormes lacunes. Dans ces écoles-là, il faut savoir que quand on prend le train en marche, on n'arrête pas le train. Et donc, ces enfants qui sont issus du quartier, qui ont eu un espoir de pouvoir aller voir autre part que leur quartier, se retrouvent un petit peu floués dans l'histoire parce que l'école ne prête pas ou peu d'attention, je dirais, à ces enfants qui sont fragiles et se retrouvent parfois mis à la porte où on leur conseille de dire que vous n'avez pas le niveau et vous devez essayer de trouver une école qui est plus adaptée à votre enfant et d'autres choses. Donc on essaye de manière déguisée et polie de les mettre à la porte sans avoir un dossier disciplinaire pour autant, mais on leur fait bien comprendre qu'ils n'ont pas leur place dans l'établissement dans lequel ils auraient eu peut-être une chance, je dirais, d'évoluer dans un autre milieu socioculturel, dans un autre milieu, dans d'autres cultures, et effectivement où il y a peut-être, entre guillemets, moins de nationalités étrangères.
Eh bien, jeunes gens, il vient de sonner, donc vous pouvez rassembler vos documents, je vais les ramasser, les garder pour la semaine prochaine. Et dans le journal de classe, vous notez « construction d'un dialogue entre parenthèses des marionnettes ».
Il y a 3 ans, un papa de Saint-Gilles a fait le chemin dans l'autre sens. Yifeng se présente lui-même comme issu d'un milieu socio-économiquement aisé. Et avec d'autres parents, il a choisi d'inscrire son fils au collège de Didier Piens.
Nous n'avions aucune place alors que nous avions coché 8 écoles différentes. Et dans notre école primaire, 10 familles étaient dans la même situation que nous. C'est à ce moment-là que j'ai essayé de fédérer les parents concernés comme nous. Et ils m'ont dit, oui, Yves, si tu veux, tu peux peut-être aller voir dans cette école que tu nous conseilles un peu comment ça se passe. Et donc j'ai été trouver le directeur parce que des gens me disaient, mais tu ne vas quand même pas mettre ton fils dans cette école, mets-toi à l'entrée, ton fils ne va pas se retrouver dans une telle population. C'est ce que j'ai fait. Donc je me suis posté devant l'école. Évidemment, toutes les couleurs du monde étaient rassemblées à l'entrée, mais c'était des jeunes comme tous les jeunes. Et donc j'ai rencontré le directeur.
Dans les 10 parents qui sont venus, il y en avait 2-3 qui étaient quand même un petit peu réticents à venir, et d'autres qui étaient prêts à se jeter évidemment à l'eau. Mais ils n'avaient jamais été aussi haut, on va dire, dans le quartier pour venir frapper à la porte. Premier mois se passe, donc il y a une rencontre à nouveau avec les autres enfants, donc on les mélange, mais sans trop les mélanger, on les laisse par groupe de 3 dans chaque classe. Et de cette manière-là, ils ne se retrouvaient pas tout seuls. Et puis, au fur et à mesure de l'année, ils se sont fait de nouveaux copains, qui n'étaient pas forcément les 10 d'avant.
On a eu un tout petit souci, mais qui était plutôt d'un ordre inattendu. C'est-à-dire que le cours de français était exceptionnellement poussé et nos enfants se retrouvaient avec des dictées imposées et de très mauvais points. Et donc j'avais été trouver le directeur pour savoir un petit peu comment se gérer ce cours de français, parce qu'une des mères sous-entendait qu'il était interdit de côté les dictées. Et alors une autre mère, qui est une écrivain très connue en Belgique, avait dit à ce moment-là, on parle toujours de nivellement par le bas, et là, pour une fois qu'il y a un nivellement par le haut, vous commencez à poser des problèmes. Laissons faire cette enseignante, et puis nous verrons. Et ça s'est merveilleusement bien passé, et le résultat est probant.
Cette expérience semble donc montrer que le niveau des élèves ne diminue pas si la mixité augmente, mais plus largement, est-ce que ce phénomène se confirme ? Julien Danguier est chercheur à l'ULB en sociologie. Il s'intéresse à la mixité dans l'enseignement.
Des pays très très peu ségrégés arrivent également à avoir des performances très élevées pour tous les élèves. C'est notamment le cas de la Finlande. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces pays, la mixité n'est pas la seule mesure mise en place. Il n'y a pas d'effet magique de la déségrégation, mais qui met à côté un package de mesures comme de la remédiation, une autre organisation de l'enseignement, l'absence de filière, un tronc commun, donc toutes des choses qui sont aujourd'hui discutées en communauté française. Et donc on peut dire qu'il n'y a pas forcément un nivellement par le bas qui est attendu si d'autres mesures accompagnent évidemment cette mixité et si des outils sont fournis aux enseignants et aux directions.
Il n'y a pas de bonne ou mauvaise école. Par exemple, là, les profs de Bruxelles, ils ont la même formation. Donc c'est nous qui ferons la différence. Donc voilà, on ne peut pas dire cette école elle est bonne par exemple. On peut trouver des classes, des bonnes classes, des mauvaises classes, mais on ne peut pas mettre l'école dans une catégorie.
On a déjà vu des Belges, mais c'était très rare. Il y en avait un en une année dans toute l'école. C'était comme ça. On n'a jamais vu beaucoup de Belges ici, sauf les profs.
Voilà. Et aussi, ça leur fait peur de venir chez nous, enfin dans cette école multiculturelle. Parce qu'ils pensent ne pas partager les mêmes cultures et les mêmes délires. Mais je pense qu'au fond, si on s'y met tous ensemble, on va faire de grandes choses.
Ces élèves vont tous dans la même école de Molenbeek. Et le décret n'y a pas vraiment apporté de mixité. Le directeur de l'école le regrette, d'une certaine manière. Mais il est lui-même bien conscient de la force de la réputation d'une école.
Soyons honnêtes. Où mettons-nous nos propres enfants, nous aussi, en tant qu'enseignants ou directeurs? Bon, on ne les met pas dans nos écoles, donc voilà. Je pourrais être de mauvaise foi et dire que, bon, être élève là où le papa est directeur, ça ne va pas. Je pense qu'être élève là où papa et maman sont professeurs, ce n'est pas terrible non plus. Mais de fait, évidemment, on a un peu peur quand même de l'environnement de ces écoles pour nos enfants qui ne sont pas habitués à ça. Donc voilà, on est tous coupables quelque part aussi de la situation. Et donc je répète qu'un décret ne va rien changer.
Depuis le 16 avril dernier, Marie-Martine Schintz est redevenue ministre de l'Enseignement. Et pour elle non plus, ce décret n'apportera pas à lui seul plus de mixité dans les écoles.
L'objectif du décret, l'objectif premier, c'était bien la transparence, et elle est réussie. Il y a un formulaire unique pour tout le monde. On sait exactement où il y a des places pendant les inscriptions. L'autre objectif, c'était l'équité. Tout le monde est sur la même ligne de départ, et donc le décret remplit bien ces deux objectifs. En ce qui concerne la mixité, le décret prévoyait la possibilité. Et donc il y avait cette possibilité pour les élèves à indice socio-économique faible d'un certain pourcentage par école. Et donc c'est bien prévu par le décret. Et en ce qui concerne l'évaluation, je pense que la mixité ne se décrète pas.
Et donc ce décret n'amènera pas plus de mixité pour vous ?
Mais je pense que la mixité, elle peut être amenée par beaucoup de choses et que l'objectif premier du décret, ce n'était pas ça.
La réflexion sur l'avenir du décret ne se limite pas au cabinet ministériel. Associations de parents, syndicats, milieux associatifs, tout le monde a son avis sur la manière de faire évoluer ce décret. À l'APED, l'appel pour une école démocratique, Nico Hirt envisage une réforme complète car selon lui, le vrai problème de l'enseignement en Belgique, c'est qu'il fonctionne comme un marché où les parents sont obligés de choisir une école.
La force de ce marché est tellement grande que elle conduit à de terribles phénomènes de polarisation. Ce n'est pas seulement de la polarisation sociale, ce n'est pas seulement des écoles de riches d'un côté et des écoles de pauvres de l'autre, ce sont des écoles où se concentrent les élèves qui ont de bons résultats scolaires, et puis dans d'autres écoles où se concentrent les élèves souvent issus de milieux socialement défavorisés, mais pas seulement, beaucoup d'élèves qui ont aussi beaucoup de difficultés scolaires. Nous ne proposons pas de supprimer la liberté de choix. Ce serait politiquement irréalisable dans un pays comme la Belgique. Nous proposons simplement que, dans un premier temps, les parents se voient pas attribuer une école, mais se voient proposer un établissement scolaire. Et cette proposition devrait se faire sur base, évidemment, d'un critère de proximité, mais aussi d'un critère de création proactive de mixité. social, évidemment. Et le pari que nous faisons, c'est que, une fois que les parents auront compris le système, qu'ils auront compris que l'école qu'on leur propose, ils ont deux garanties. La première, c'est être sûr d'avoir une place. La deuxième garantie, c'est qu'ils sont certains que cette école ne sera pas un ghetto. Ce sera ni un ghetto de riches, ni un ghetto de pauvres. Ce sera une école avec une population représentative de l'ensemble de la population bruxelloise. Ce sera réellement mélangé. Je pense que les parents qui auront compris ça préféreront la certitude d'avoir cette école qui offre de bonnes garanties, d'avoir un enseignement de qualité et d'être en plus proche de leur domicile, plutôt que de courir l'aventure. Je crois que la très grande majorité des parents joueront le jeu, et parce qu'ils comprendront que c'est leur propre intérêt, et l'intérêt surtout de leur enfant, hein, d'avoir ce type de scolarisation-là.
Cette idée de proposer une école à chaque parent n'est qu'un projet, une utopie presque. La plupart des acteurs que nous avons rencontrés dans le cadre de ce reportage défendent coûte que coûte le sacro-saint droit pour les parents de choisir l'école de leur enfant. La vraie solution serait sans doute de supprimer la compétition entre les écoles afin qu'un jour, tous les parents acceptent d'inscrire leur enfant dans toutes les écoles. Mais ce changement-là risque de prendre encore beaucoup de temps.